Le journal, présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir à tous. Pour que les Français travaillent effectivement plus longtemps, le gouvernement veut favoriser le maintien dans l'emploi des seniors. Annabelle Grelier a lu pour nous les préconisations du rapport Bellon. Emmanuel Macron demande au ministère de l'Intérieur des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Après de nouvelles accusations de violences policières, Christophe Castaner avait déjà hier rappelé les policiers à leur devoir d'exemplarité. La Commission européenne dévoile son plan d'investissement pour financer la transition énergétique, précision d'Angélique Boin à Strasbourg. Et puis l'Organisation internationale pour les migrations s'inquiète pour les migrants renvoyés en Libye, près d'un millier de personnes depuis le 1er janvier, alors que la situation sécuritaire est très préoccupante dans le pays. Pour équilibrer le système des retraites, pas de secret, il faut que les Français travaillent plus longtemps, c'est la conviction de l'exécutif. Or, dans le privé, un actif sur deux qui part en retraite n'est déjà plus en emploi. Comment favoriser le travail des seniors? C'est la question à laquelle le rapport de Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo, s'est efforcée de répondre. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Alors, quelles sont les mesures envisagées?
Alors, tout d'abord, le diagnostic. Effectivement, il est connu, reconnaissent les auteurs du rapport, mais il est tout de même jamais inutile de le rappeler, tant le chiffre interpelle dans le débat actuel. Un actif sur deux qui part à la retraite n'est pas en emploi, vous l'avez dit Aurélie, il est soit au chômage, soit en maladie, soit en inaptitude. Autant dire qu'il y a urgence à agir, comme le souligne Sophie Bellon, donc la présidente de Sodexo et co-auteur du rapport. Il faut dire qu'en matière de travail des seniors, la France fait vraiment partie des mauvais élèves de l'Union européenne et des pays de l'OCDE. Le taux d'emploi pour les 55-64 ans y est faible. Un quinquagénaire qui perd aujourd'hui son emploi est un salarié à risque, risque de ne jamais en retrouver. Autre point noir, la santé au travail. La France est le pays d'Europe qui investit le moins d'argent dans les politiques de prévention, alors que le rapport pointe que les indemnités maladie journalières ont augmenté de 70% entre 2010 et 2016. En France, donc, on ne sait pas anticiper l'usure professionnelle. Le rapport préconise de mettre en place de meilleurs suivis de carrière, de développer les compétences en deuxième partie de carrière, ainsi que les mobilités internes ou favoriser la transition entre l'emploi et la retraite. Bref, améliorer la perception des seniors en entreprise. Depuis les années 80 et les politiques publiques de retraite anticipée, on a fini par penser que les seniors prenaient l'emploi des jeunes, qu'ils coûtaient cher ou qu'ils n'étaient plus productifs, reconnaissent les auteurs du rapport, qui estiment qu'il s'agit là bien plus d'un sujet de société que d'un sujet politique. C'est un problème culturel, il faut changer de vision. Les entreprises vont devoir valoriser l'expérience. Dans le rapport figurent donc 38 propositions comme élargir les conditions d'éligibilité aux dispositifs de retraite progressive ou encore favoriser les reconversions, aménager les fins de carrière, bref, rien que l'on ne sache pas déjà.
Annabelle Grelier, cheminots, salariés de l'énergie, personnel soignant, plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Marseille comme à Bordeaux pour réclamer le retrait du projet de réforme de retraite. Plusieurs grands ports maritimes étaient bloqués à l'appel de la Fédération nationale CGT des ports et docks qui a lancé une nouvelle opération port mort jusqu'à jeudi. Et à la SNCF, il y a eu une remontée du taux de grévistes avec un quart des conducteurs en grève. Mais demain, la direction prévoit une nouvelle amélioration du trafic avec 80% des TGV et TER et 75% des Transiliens en circulation, amélioration aussi à la RATP. À l'Assemblée, droite et gauche sont montés au créneau pour contester les conditions de l'examen de la réforme des retraites. Les députés de l'opposition se sentent lésés. Le volet financement étant remis à plus tard, ils estiment que les débats sont tronqués. Les parlementaires ont donc mis la pression sur Édouard Philippe lors de la séance des questions au gouvernement. Et la réponse du Premier ministre a plutôt mis de l'huile sur le feu, Pierre Neveu.
Ouais, si elle fissure le front syndical depuis samedi soir, l'organisation de la conférence de financement des retraites offre un nouvel angle d'attaque aux députés de l'opposition. Ils ont exprimé leur émotion cet après-midi, dénonçant un déni de démocratie, une mise en concurrence de la démocratie parlementaire et de la démocratie sociale. Passant entre les gouttes, le Premier ministre a bien tenté de rassurer les députés en expliquant qu'ils seront consultés sur le projet de loi et les conditions du retour à l'équilibre. Mais au passage, vous allez l'entendre, il confirme qu'une mesure d'âge s'imposera pour assurer l'équilibre financier du système.
L'ensemble de mesures qui seront proposées et qui seront formulées par les organisations syndicales et patronales dans le cadre d'une conférence de financement comportera probablement tout un ensemble de mesures. Cet ensemble de mesures contiendra-t-il une mesure d'âge? Je le pense, car je ne vois pas comment, sinon, on pourrait arriver à l'équilibre financier de 2027.
Une mesure d'âge, je le pense, dit le Premier ministre par ses mots. Édouard Philippe anticipe déjà le résultat de cette conférence de financement qui doit rendre ses conclusions fin avril. Même si prudent, le chef du gouvernement se défend de faire des propositions à la place des partenaires sociaux. De toute façon, il rappelle qu'à la fin, il prendra ses responsabilités. Autrement dit, le gouvernement légiférera par ordonnance pour atteindre un équilibre en 2027. C'est son objectif, voire même une nécessité. Le Premier ministre qui a reçu un soutien appuyé du chef de l'État cet après-midi en déplacement à Pau. Emmanuel Macron promet une nouvelle phase de pédagogie et de discussion, une prise de parole pour rappeler le cadre de la réforme face à l'opinion, face à la rue. Même si le président reconnaît qu'il ne lèvera pas le mécontentement de ceux qui défendent les régimes spéciaux depuis 41 jours maintenant.
Pierre Neveu, on ne fait pas de croche-pied à l'éthique, disait hier Christophe Castaner lors de ses vœux à la police nationale. Le chef de l'État fait écho aujourd'hui aux propos du ministre de l'Intérieur. Alors que la famille de Cédric Chouviat, mort après une interpellation, était reçue cet après-midi, place Beauvau, Emmanuel Macron a demandé des propositions pour améliorer la déontologie policière. Écoutez le chef de l'État.
J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Et donc, je souhaite que le ministère de l'Intérieur puisse me faire dans les meilleurs délais des propositions claires pour améliorer la déontologie, les éléments de contrôle et que la justice puisse continuer à travailler sur ces cas. Mais en aucun cas, je ne veux que ce sujet vienne non plus cacher la violence profonde qui existe dans notre société et dont les forces de sécurité intérieure sont les premières victimes.
Emmanuel Macron. Ségolène Royal ne sera bientôt plus ambassadrice des pôles. Elle confirme sur Facebook une information du Canard enchaîné, Stéphane Robert. Elle a reçu un courrier lui reprochant ses récentes prises de parole publiques.
Oui, tout est parti d'une information tombée cet après-midi faisant état du fait que le Canard enchaîné annonce dans son édition de demain le prochain limogeage de Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles. Ce qui a eu pour effet de faire instantanément réagir l'intéressé sur Twitter et sur Facebook. Ségolène Royal a partiellement confirmé l'information en y apportant des corrections et des précisions. Contrairement à ce qu'affirme le Canard enchaîné, dit-elle, elle n'est pas convoquée au Quai d'Orsay en vue de son licenciement. En revanche, elle a reçu une lettre le 7 janvier dernier émanant du Quai d'Orsay. Lettre qui l'informe qu'on envisage de mettre fin à ses fonctions d'ambassadrice des pôles parce que, dit cette lettre, elle ne respecte pas le devoir de réserve sur l'action du gouvernement attaché à sa fonction. Ségolène Royal avait notamment critiqué la décision d'Emmanuel Macron en plein conflit sur les retraites le mois dernier de renoncer à sa retraite de président. La vraie question, avait rétorqué la future ex-ambassadrice des pôles, est de savoir s'il renonce après l'Élysée à retourner dans le monde du business où les retraites chapeaux sont sans commune mesure. Elle entérine donc le fait qu'on va mettre fin à ses fonctions au cours d'un prochain Conseil des ministres, ainsi que le prévoit la procédure et ainsi que l'indique la lettre, puisqu'elle n'a pas de son côté, dit-elle, l'intention de renoncer à sa liberté d'opinion et d'expression.
Stéphane Robert. Auchan va supprimer 517 emplois pour tenter de redresser l'entreprise. Ce projet de plan de départ volontaire a été présenté aujourd'hui aux instances représentatives du personnel. Le point faible d'Auchan, Anne-Laure Chouin, ce sont les hypermarchés qui représentent 75% de son chiffre d'affaires.
Oui, l'hypermarché est le format phare du groupe Auchan, groupe qui n'a pas vraiment investi dans les petites surfaces de proximité. Ces hypermarchés donc font de moins en moins recettes et le groupe de la famille Muliez a mis plus de temps que ses concurrents à s'y adapter. Avec ce paradoxe, le chiffre d'affaires d'Auchan ne cesse de diminuer, mais le groupe, dont la famille détient, rappelons-le, Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, Kiabi, Brice ou Jules, est le premier commerçant français avec un chiffre d'affaires toute enseigne de 100 milliards d'euros. C'est donc la partie retail, la partie commerce de détail qui se restructure avec un plan nommé Auchan 2022. Une restructuration qui passe plus tard que ses concurrents, mais tout comme ses concurrents, par des licenciements. 517 emplois nets en moins. Ça peut paraître peu, mais c'est un choc pour les salariés d'un groupe de 75 000 personnes qui affirment depuis sa création sa vocation sociale. Bruno Delay de la CFTC Auchan.
On a eu trop d'errements de nos dirigeants ces dernières années, des décisions stratégiques maladroites, et l'adaptation du commerce en France, mais aussi du commerce mondial, est beaucoup trop lente par rapport à l'avènement du e-commerce ou des nouvelles attentes consommateurs, et on est en train d'en payer le prix.
De fait, les nombreux changements à la direction opérationnelle du groupe ces dernières années ont été pointés du doigt par tous les analystes. Aujourd'hui, Auchan Retail parie sur une réduction de ses univers non alimentaires, électroménagers ou loisirs culturels par exemple, pour se recentrer sur les métiers de bouche et rayons dits à service, qui accueilleront plus de producteurs locaux par exemple. Une stratégie adoptée par la plupart des enseignes de la grande distribution, avec plus ou moins de retard.
Anne-Laure Chouin. Des caresses, des câlins, c'est ce que le père Prénat estimait faire avec les enfants qu'il accompagnait en tant qu'aumônier scout. L'ancien prêtre reconnaît aujourd'hui les atteintes sexuelles sur mineurs dont il est accusé, des agressions commises entre 1971 et 1991 sur des jeunes qui avaient alors entre 7 et 15 ans. Mathilde Imberti, vous avez suivi la première journée d'audience de son procès au tribunal correctionnel de Lyon.
Bernard Prénat répond point par point aux témoignages de chaque victime. Ça commence par François Deveau, cofondateur de l'association La Parole Libérée. Il raconte le jour où l'homme lui enlève son béret, ses lunettes et l'embrasse sur la bouche. Puis l'après, l'adolescence sombre, le flirt avec la mort, la tentative de suicide. Bernard Prénat réagit à cette déclaration, il se dit assommé. « Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre les conséquences de mes actes », dit l'homme de 74 ans, tout en minimisant leur aspect sexuel. Il ne se souvient pas du baiser sur la bouche. Il nie pour la deuxième victime, qui s'avance, avoir mis la main dans son slip. Et il précise « c'était des gestes de tendresse dans lesquels je trouvais un certain plaisir ». La réaction de l'une des victimes, partie civile, Pierre-Emmanuel Germain-Til.
C'est pas audible. Et moi qui connais le personnage, qui ai même encore eu des gens qui l'ont côtoyé jusqu'à très récemment dans les paroisses où il était après, c'est quelqu'un qui manipulait les masses, qui avait vraiment une emprise sur les gens. Il était à la fois craint et admiré. Il y avait vraiment cette ambiguïté chez les gens. Et là, cette posture qu'il adopte, pour moi, c'est de la feinte.
La personnalité de Bernard Prénat sera abordée demain en détail. Elle a été effleurée par François Deveau qui a parlé déjà d'un homme gueulard, colérique et adulé par les paroissiens, un véritable gourou.
Les Européens tentent une nouvelle stratégie pour amener l'Iran à faire marche arrière et à revenir au respect de ses engagements nucléaires. Berlin, Londres et Paris ont décidé de déclencher le mécanisme de règlement des différends prévu par l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, un mécanisme susceptible à terme de déboucher sur un rétablissement de sanctions de l'ONU. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Le 5 janvier, Téhéran a annoncé la cinquième et dernière phase de son plan de réduction de ses engagements nucléaires en réaction à la sortie des États-Unis de l'accord. Avec cette décision européenne, quel est l'effet escompté ?
Écoutez, Aurélie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont pris conscience de la gravité de la crise et surtout de la détermination de l'Iran à s'affranchir des verrous qui brident son programme nucléaire. Nous n'avions pas d'autre choix que d'activer la commission de règlement des différends, nous a confié un diplomate du Quai d'Orsay qui estime que ce n'est pas la fin du monde, qu'il s'agit là d'un mécanisme notarial qui vise à acter les problèmes. Alors, que cherchent les Européens en déclenchant l'article 36 de l'accord de Vienne, le JCPOA ? Essentiellement à acheter du temps car le processus d'examen des différends prévoit plusieurs phases. D'abord 15 jours au niveau des experts, période qui peut être prorogée sans limite. Puis il y a une deuxième étape de 15 jours au niveau cette fois-ci des ministres des Affaires étrangères, elle aussi extensible. Bref, tout cela va durer des mois, ce qui fait dire à notre diplomate français que l'objectif n'est pas d'aggraver la situation, mais d'ouvrir une porte diplomatique pour maintenir en vie un accord aujourd'hui en grande difficulté. Il s'agit en fait pour les diplomaties européennes d'éviter à tout prix qu'une absence de solution à Vienne ne remonte au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où seraient alors réintroduites automatiquement l'ensemble des sanctions onusiennes et européennes qui frappaient l'Iran avant la signature de l'accord de Vienne. C'est ce qu'on appelle en anglais le principe du snack back. Ce serait alors la mort du JCPOA, affirme notre source au Quai d'Orsay, car les Iraniens ont fait savoir qu'une saisine du Conseil de sécurité entraînerait alors leur départ de l'accord, et c'est ce que veulent éviter à tout prix les Européens.
Christian Chesneau, une conférence internationale sur la Libye va se tenir dimanche à Berlin. Une trêve est en vigueur depuis dimanche dernier, mais les rivaux libyens ne se sont pas rencontrés lors des pourparlers à Moscou et le conflit est loin d'être résolu. Les combats entre les forces du maréchal Haftar et les troupes fidèles au gouvernement reconnues par l'ONU ont poussé les exilés présents dans le pays à fuir vers l'Europe et donc depuis le 1er janvier, les gardes-côtes libyens ont intercepté plus de 1000 migrants en mer. La plupart plupart ont été renvoyés dans les centres de détention de la capitale libyenne, qui sont accusés d'être des lieux de torture par les organisations de défense des droits de l'homme. À Genève, Jérémy Lange.
Impossible de savoir combien de migrants ont pris la mer l'an passé à la même époque en Libye, mais l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, est convaincue que les départs se sont accélérés avec l'intensification des combats. C'est en tout cas ce que disent les migrants auxquels l'OIM a pu parler, car les organisations d'aide humanitaire n'ont pas accès à tous les centres de détention de Tripoli. Quelques 5000 migrants y seraient toujours prisonniers dans des conditions inhumaines, disent les Nations Unies, et soumis au bombardement des groupes armés. L'été dernier, une frappe contre l'un de ces centres avait fait une quarantaine de morts. L'OIM demande la fermeture de ces centres de détention. Ce qui est sûr, c'est que les combats à Tripoli sont les plus violents depuis le début des hostilités, il y a 9 mois, et qu'ils poussent tous les civils à s'interroger sur un départ de Libye. Parmi les 1000 personnes interceptées en mer et originaires pour la plupart d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, une vingtaine étaient des ressortissants libyens.
Jérémy Lange, à Genève. La Commission européenne dévoile son plan pour aider les États membres à financer leur transition écologique. Comment mobiliser en 10 ans les 1000 milliards d'euros estimés par la Commission pour transformer l'Union européenne en une Europe verte? Rien ne se fera en un jour, mais l'idée, Angélique Boin, c'est de changer les mentalités.
La Commission propose certes de mobiliser des fonds européens, mais elle mise aussi sur de nouvelles règles pour stimuler les investissements publics et privés. États, entreprises et même citoyens sont concernés. Pour chaque euro dépensé, Bruxelles veut un effet de levier. La Banque européenne d'investissement, appelée à devenir la Banque européenne du climat, sera mise à contribution, tout comme l'ancien fonds Juncker et les fonds de cohésion. Mais pour aider, comme promis, les régions les plus dépendantes du charbon, comme la Pologne, une enveloppe spécifique est prévue, un fonds doté d'un peu plus d'un milliard d'euros d'argent frais par an. Dans ces régions, l'industrie, l'emploi vont être bousculés, rappelle Pascal Canfin, le président de la commission environnement au Parlement.
Le plan de transition juste, il est là pour transformer des perdants de la transition en gagnants de la transition. Et l'Europe tire en quelque sorte les leçons des gilets jaunes en France et veut éviter que la transition écologique soit perçue comme injuste en Europe.
Cela suffira-t-il à convaincre les pays de l'Est récalcitrants? Quels seront les critères d'éligibilité pour ces aides? Et les États membres et le Parlement valideront-ils cette proposition? Des questions encore sans réponse.
Le dossier de ce journal est consacré à la Grèce, 10 ans après l'annonce de son premier plan d'austérité. Depuis cette annonce du Premier ministre, la Grèce a perdu 25% de son PIB et un tiers de la population est passée sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, le pays semble sorti de la crise, mais on revient sur ses années noires avec Angélique Kouronis à Athènes.
Baisse des salaires et des retraites, conventions collectives détricotées, état social réduit, droits syndicaux limités, pays vendu à la coupe. Irini, 44 ans, professeur de lettres et syndicaliste, égrène les conséquences des 3 mémorandums d'austérité qui ont frappé le pays ces 10 dernières années de crise. Et elle enrage, car pour elle, toutes ces réformes imposées n'ont pas touché aux réels problèmes du pays.
Il n'y a pas eu de combat contre la corruption. Il n'y a pas plus d'un mois, on discutait de la manière dont ont été nommées des personnes de 80 et 85 ans comme directeurs d'hôpital, sans aucune compétence, ou des hauts cadres du gouvernement qui soumettent de faux CV. Les pots de vin sont toujours là. Les bakchiches aux médecins ont été limités, tant mieux, mais la corruption au niveau de l'État continue. Elle n'a pas été combattue.
Un verre à la main, Irini fait le bilan des années de crise. Malgré une récente augmentation, son salaire est toujours 40% inférieur à celui d'avant la crise. Son temps de travail a augmenté, ses classes sont surchargées, elle n'a pas retrouvé son ancien mode de vie et elle s'angoisse toujours pour sa fille.
Ces années, en septembre, quand l'anniversaire de Naya approche, je sors mon cahier et je note les rentrées et les dépenses. Je fais mes calculs pour voir ce qui me reste et si je m'en sors. Naya grandit, elle a maintenant 11 ans, et il me semble qu'on va y arriver. Jusqu'à 17 ans, j'étais plus angoissée, tant qu'elle était plus petite. Mais après 17 ans, je ne sais pas si je pourrais encore l'aider à faire des études supérieures. J'ai grandi avec une mère femme de ménage qui estimait de son devoir de tout donner à ses enfants. Et moi, la professeure, je ne pourrais pas faire la même chose.
À côté d'elle, son mari Vionis est un peu plus optimiste. Après 4 ans de chômage, il a pu enfin trouver un travail dans sa branche, déclaré un luxe dans la Grèce de l'après-crise. Il est même rédacteur en chef, mais ses 800 euros de salaire sont payés avec jusqu'à 2 mois de retard, ce qui est peu par rapport aux 4 et 8 mois qui sont la règle. Et il n'est pas non plus payé avec des coupons de supermarché, ce qui est très fréquent en Grèce. Il ne se plaint pas, il s'en est sorti, d'autres non.
D'accord, il y a une période... Il est vrai, à une époque, j'ai frôlé la dépression. Je pense que c'est mon naturel fort qui m'a permis de tenir bon. Mais il y en a d'autres à ma place qui ne sont pas arrivés. Il y a eu des suicides, même récemment, autour de nous. Et j'ai appris que le garçon qui nous servait au café devant le journal s'est suicidé à cause de la crise il y a 2 ans.
Pour Naya, 11 ans, la Grèce de la prospérité est un mythe. Elle n'a connu que l'austérité.
J'ai très souvent vu mes parents se disputer au sujet de l'argent. Alors je ne demande rien que le strict nécessaire. Et même là, après, je le regrette. Mais j'ai peur pour mes enfants plus tard. Si ma maman déjà a peu d'argent, juste de quoi m'acheter le nécessaire, moi j'en aurais pas du tout. Ça tourne tout le temps dans ma tête. L'argent, l'argent, l'argent. C'est devenu mon inquiétude, à moi aussi désormais.
En entendant cela, sa grand-mère Panayota explose.
Qu'est-ce qu'elle va devenir quand elle sera grande, ma petite fille? Elle va devoir partir à l'étranger? La situation se sera-t-elle améliorée d'ici là? C'est mon unique petite fille et j'ai peur, bien sûr. Vous voyez les choses s'améliorer, vous? Vous voyez des nouveaux emplois se créer, vous?
Panayota a peur de voir partir son unique petite fille. Beaucoup de grand-mères en Grèce sont dans ce cas. 1,5 million de jeunes Grecs éduqués sont partis à l'étranger. Et bien que le pays soit officiellement sorti de la crise, très peu sont rentrés.
Angélique Coronis, correspondante de France Culture en Grèce. Demain mercredi, Météo France prévoit une perturbation pluvieuse sur le nord-ouest, mais la journée sera plutôt ensoleillée dans le sud et dans l'est. Les températures seront douces pour la saison, 3 à 11 degrés le matin, 10 à 14 l'après-midi sur la moitié nord, 12 à 15 sur la moitié sud, localement 16 sur le sud de l'Aquitaine. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.